Si c'est là, c'est ici.
Je suis né dans un pays qui a une histoire. Et je suis né d'un certain côté. Et quand on me met dans ce côté-là, ça ne m'étonne pas. Mais moi, je ne me sens pas là-bas. Je me sens un être humain. Mais quand on dit que je suis Rwandais ou Hutu, ça ne me fait ni chaud ni froid. Ce sont des chemises qu'on me met. Ce sont des masques qu'on me fait porter. Pourvu qu'on ne profite pas de ces masques pour me massacrer.
Lauriane Tizimana, vivre à l'endroit.
Je voyais de loin, j'étais sur la route, mais je pouvais voir tuer. Par exemple, quand je descendais à Karubanda, je pouvais voir dans la forêt des gens qui étaient en train de battre comme s'ils tuaient un serpent. Et d'ailleurs, c'est comme ça qu'on disait à la barrière. Je disais, mais ces gens, ils sont en train de frapper quoi? Parce que je ne vois pas ce qui est à terre. Je vois des gens qui se lèvent et qui frappent. Et puis, ils me disaient, ils sont en train de tuer un serpent. Mais ce n'est pas en question, c'était des gens qui étaient en train de tuer. Mais quand tu es dans l'horreur suffisamment longtemps, tu te reprends. Et quand je me suis repris, je ne souffrais plus. Je me battais. Je me disais, il faut limiter les dégâts. C'est tout. Et c'est là que je me suis mis en mouvement pour essayer de nourrir ces gens. Mais là, j'avais maintenant compris que nous étions entrés dans l'innommable, en fait.
Aujourd'hui, nous allons rencontrer Lauriane Tizimana, un théologien rwandais. Ce personnage hors du commun, ce penseur, ce rassembleur, était de passage en Belgique, dans un petit village du Hainaut, où vit désormais sa famille.
Papa était catéchiste depuis les années... Dès le départ, il s'est battu vraiment pour qu'on ne tue pas les Tutsis. Déjà, à ce moment-là, ce que j'ai appris de maman, c'était d'abord l'authenticité et le fait de respecter les gens. Il nous a appris ça. Je ne veux pas dire que ma jeunesse a été une jeunesse, comment dire, tendre, dans le farniente. Non. Ça, il a fallu travailler. Je n'aimais pas, mais en fait, ça m'a forgé. Sans que je le sache. Et ça m'a appris à me lever tôt. Oui. Je dois dire que quand j'étudiais à l'école primaire, j'étais pas très fort. Pas du tout. J'étais maigrichon quand j'étais jeune. Et ça va avoir des conséquences énormes sur ma vie. Parce que quand on est maigrichon chez moi, alors on est le souffre-douleur des autres. Et puis comme j'étais le cadet, je pleurais facilement. Et un garçon qui pleure au Rwanda, c'est la catastrophe. On vous dit que vous ne devez pas montrer à l'ennemi vos larmes. Vous devez les avaler. Elles doivent couler à l'intérieur, pas à l'extérieur. Plus tard, quand je vais grandir, je vais chercher le moyen de compenser ma faiblesse. Et c'est comme ça que j'ai appris les arts martiaux. Pour me protéger. D'abord, c'était ça.
En 1979, Lauriane Tizimana est allée étudier la théologie et les sciences humaines à Kinshasa. Après ses études à Kinshasa, Lauriane vient faire un troisième cycle ici en Belgique. Il commence alors à sortir des sentiers battus de l'académisme pour entrer dans une philosophie de vie plus corporelle et spirituelle, la philosophie du Tao.
Quand j'ai commencé le Tai Chi, j'ai découvert l'énergie interne. Puis j'ai commencé à étudier la philosophie du Tao. Qui n'est pas une philosophie intellectuelle, mais une philosophie dansée. C'est une philosophie corporelle. Il ne s'agit pas de discourir, il s'agit de vivre les choses. C'est ce que j'appelle mon expérience fondatrice. C'est là que j'ai commencé à comprendre ce que c'est vivre le présent. C'est là que j'ai commencé à comprendre que la vie est gouvernée par les intentions que nous avons à propos de la vie. Vivez aujourd'hui, à chaque jour, suffit sa peine. Et moi, j'ajoute, suffit sa joie aussi. C'est dans cet esprit-là que je suis rentré au Rwanda.
Je suis rentré au Rwanda en 90, nonobstant quelques voix qui me disaient qu'il allait y avoir la guerre au Rwanda. Et c'est le 1er octobre que la guerre a éclaté. Et avec Innocent, on a commencé à sillonner le diocèse. Ce que nous voulions, c'était d'abord renforcer l'être intérieur des gens. Qu'ils sortent du « on », qu'ils sortent de la foule et commencent à s'affirmer comme individus. Et on a commencé justement à se battre contre l'idéologie de la haine ethnique qui commençait à monter. On a été confronté à ce contexte de guerre. Et on était en train vraiment de travailler la tête et le cœur des gens pour les opposer les uns aux autres. Et nous, on travaillait dans le sens inverse. C'est ça, c'est ce contexte-là qui a fait que nous sommes allés revisiter le fond de la violence humaine, en fait. Et nous avions fondé cette synthèse sur un concept fondamental en culture rwandaise, le concept de imbagaritie. Imbagaritie, ça veut dire l'endroit, la verticale, mais ça veut dire aussi le bonheur en kinyarwanda. Et alors, si tu es imbagaritie, la tête tournée vers le ciel, si tu marches imbagaritie, le regard fixé vers tes frères et tes sœurs, les pieds bien droits sur la terre, alors tu auras imbagaritie. Mais le problème, c'est que depuis la fondation du monde, le commencement de l'histoire, justement, l'homme est à l'envers. Il n'est plus imbagaritie. Alors on voulait en voir déjà le signe dans le fait que quand tu nais la tête la première. Tu es à l'envers. Ah, pour te remettre à l'endroit, ça va demander beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps et beaucoup, beaucoup d'énergie. Donc, être à l'envers, ça veut dire quoi dans notre modèle? Ça veut dire que l'humain, au lieu de contempler le ciel, se laisse obnubiler par la terre. Donc, quand il se met à l'envers, c'est qu'il se détourne. Ou il est détourné. Tu penses avec les pieds, tu marches avec la tête. Alors, ce détournement, c'est le désir mimétique. Le désir mimétique, je veux ça parce que tu dis que c'est à toi. Hein? Donc, les biens matériels deviennent la pomme de discorde. Et au lieu de nous considérer comme des frères, nous commençons à nous considérer comme des ennemis. Depuis qu'on est à l'envers, et c'est depuis la fondation du monde, on voit la violence dans le monde. Et la violence s'origine dans le désir mimétique qui devient violence mimétique. C'est fondamentalement l'incapacité à maintenir notre identité de un et pluriel à la fois. Et ça, ce sont les divisions justement qui aboutissent à des génocides.
En 1994, au Rwanda, la loi est de tuer. Si tu ne tues pas, c'est moi qui te tue. La loi devient folle, les institutions judiciaires sont par terre et le pays bascule alors dans un chaos indicible.
Quand j'ai porté du riz à Houyé, je me suis fait arrêter par une foule de gens excités. Et d'ailleurs le chauffeur Anastase qui conduisait la camionnette, il tremblait de tous ses membres. Et je lui disais, Anastase, si tu continues à trembler, tu vas nous faire tuer. Tu sais, quand tu trembles devant un chien enragé, il te mord. Hein? Il ne faut pas trembler, il faut rester digne, ferme. Ils sont venus, nous ont arrêtés. Ils étaient en train de tuer dans la forêt. Ils me demandaient, où vas-tu avec ce riz-là? Et je disais, je vais nourrir ces gens qui sont à la commune. Mais est-ce que tu sais qui c'est ces gens? Oui, je sais que ce sont des Tutsis que vous avez chassés de chez eux. Ces gens-là, je vais les nourrir. Si vous voulez les tuer, ça, c'est votre responsabilité. La mienne, c'est de les nourrir. Et il disait, mais tu ne sais pas à quoi tu t'exposes. Je disais, je m'expose à quoi? Tu t'exposes à être tué. Je dis, tant pis. Et c'est vous qui allez me tuer? Pourquoi? Si vous avez faim et que vous avez besoin de riz, je vais vous donner du riz aussi. Et je vous donne du riz, vous aussi. Pourquoi est-ce que je refuserai à eux? Et puis les autres disaient, non, ni mumure kabija nesha turaza kubitwara nimugoro. Laissez-le leur apporter ça, nous allons reprendre ça le soir. Tu comprends? Et c'est une des choses qui m'ont sauvé. C'est que je me suis occupé de ça pendant le génocide. Je m'occupais de nourrir les gens.
Et au moment où vous avez rencontré ces gens, vous avez eu peur?
Je vais te dire une chose. Tu as peur et à la fin tu vas au-delà. Je ne sais pas si c'est au-delà ou en deçà de la peur. Tu deviens, en Kinyarwanda, on dit Uhindukikinya. Uhindukikinya, tu deviens comme si tu avais de la morphine dans le corps et que tu ne sens plus tout ça. Et j'avais peur, bien sûr. Mais chaque matin, je prenais une heure de tai chi. Parce qu'il fallait, que l'énergie circule, absolument. J'avais peur, comme tout le monde. J'étais en colère contre les gens qui tuaient les autres. Mais quand je les avais en face de moi, je devais justement travailler à l'intérieur. Je les considère comme des humains qui sont en train de faire fausse route. Personne n'est condamné. On a toujours une conscience qui peut s'éveiller. Ce qui veut dire que face à quelqu'un qui est en train de commettre quelque chose d'irréparable comme un génocide, je garde en conscience qu'il peut sortir de là. Il peut revenir de là. Et que j'ai certainement un complice en lui. Et je vais chercher le complice. Et le complice, c'est l'humain en lui. Mais pour y arriver, il faut que je conserve mon propre humain. Ce qui suppose que je dois mettre en activité mon paratonnerre. Je dois pouvoir attraper cette énergie de peur qu'il m'envoie et l'envoyer dans le sol. Et comment est-ce que je l'envoie dans le sol? Je me relaxe et je respire du fond du ventre. Et là, je dis, tu peux te détendre pendant que ce qui te tendait est encore là. Et je dis en Kinyarwanda, Kuruhukana umwanzi akikwirukankanye. Tu te reposes pendant que l'ennemi court toujours après toi. Et toi, tu es au repos. C'est-à-dire que tu l'as déjà vaincu, en fait. Parce que tu n'as plus peur de lui. Quand tu n'as plus peur, en fait, on n'a plus de prise sur toi. Et alors là, je vais utiliser mes deux armes. Pour moi, les armes les plus importantes de l'être humain, c'est son regard et sa parole. Et dans cette parole-là, l'important n'est pas tellement ce que je dis. C'est le ton. Mais si je lui parle comme un être humain, sur un ton égal de respect et de fermeté, je suis en train de convoquer son humanité sur la scène. Je le convoque dans son humanité. Et alors là, on peut parler. La difficulté, c'est quand la personne est droguée. Parce que quand elle est droguée, tu ne peux plus convoquer son humanité. Difficilement.
Face à l'innommable, face à l'inhumain, Laurien puise sa force dans ce qu'il appelle la bonne puissance.
La bonne puissance, c'est d'abord l'assurance. L'assurance, la stabilité. Une assurance sans appui qu'on puisse faucher pour faire tomber. Et cette assurance, c'est simplement la confiance dans la vie. Tu ne peux pas savoir que tu es grand s'il n'y a pas un petit. Tu ne peux pas savoir que tu es en haut s'il n'y a pas un en bas. Que tu es à droite s'il n'y a pas un à gauche. Et ça, c'est notre monde qui est en fait le monde des illusions. C'est-à-dire le monde que nous créons avec notre mental. C'est nous qui le créons. Et nous pouvons donc le décréer et créer autre chose. Puisque tu es un avec la vie, c'est que tu es indestructible. Ta forme peut se transformer. Mais qui tu es vraiment ne se transforme pas. Ou plutôt ne peut pas périr. C'est ça l'assurance première. Et cette assurance-là te donne de l'énergie. Et l'énergie, pour moi, c'est la capacité de reprendre même le pire. Ce que tu crois être le pire dans le monde où nous sommes, de la relativité, eh bien, quand tu te souviens de qui tu es vraiment, tu peux le reprendre. Et engendrer du neuf. Comprendre que, en fait, quand je te vois, Pascaline, je vois Laurien sous forme de femme blanche. Tu vois, je peux l'exprimer ainsi. Je vois Laurien, mais son être, pas le physique que tu vois. C'est-à-dire que je me vois autrement. Tu es moi autrement, je suis toi autrement. Et donc là, je suis plutôt invité à l'émerveillement devant toi. Beaucoup plus qu'au désir de prendre ou de rejeter. Non, l'émerveillement. Devant le même être autrement. Et ça, c'est une phrase de Maurice Véry qui disait, « Ce que tu feras de meilleur, tu le feras avec le pire de toi-même. » Et ça, je trouve que c'était fabuleux. Comme quoi, personne n'est condamné.
Qu'est-ce qu'il faudrait faire dans cette situation face à un génocidaire?
Le punir, ça ne veut rien dire parce que tu vas l'enfoncer dans sa croyance qu'il a raison et que tu es vraiment méchant. C'est comme ça que les génocidaires, par exemple, disent, tiens, on a eu tort de ne pas achever le travail. Tu vois? Tu l'as enfoncé dans sa logique. Alors qu'il faut l'extraire de cette logique et le ramener dans la logique universelle, où nous sommes tous un. Et ça, la punition ne le peut pas. Ce qui le peut, c'est la compassion. Et la compassion suppose une empathie. Et l'empathie, ça veut dire je vais sentir comme tu sens. Donc, je n'ai pas commencé par condamner. J'ai commencé par comprendre. Et comprendre, ça ne veut pas dire excuser. Et alors, je te comprends, mais je sais aussi qu'en toi, il y a la force de sortir de là. Et là, je vais, le deuxième mouvement de la compassion, c'est l'éveil. Empathie et éveil. Je vais éveiller la divinité en toi et te redonner tes moyens. Et alors, mon but, c'est de rendre les gens à eux-mêmes, de les aider à sortir des modèles de réalité qui les enferment dans le crime et qu'ils redeviennent des humains. Voilà. Mais je pense qu'il y a chaque fois derrière, il y a comme un esprit malin qui nous joue des tours. Et cet esprit malin, c'est la souffrance des uns qui n'a pas été guérie. Et donc, qui est en train de vicier tous les processus. Devant un génocide, personne ne reste neutre. Ce n'est pas possible. On est pour ou contre. Et alors là, chacun doit se donner les moyens de retrouver son humanité, de retrouver son enracinement dans l'humain. Alors, ton devoir en fait d'humain, le devoir d'être aidant, c'est de me ramener dans l'axe de l'humain. Et une justice, pour moi, la justice doit ramener les gens dans l'axe. Il faut éveiller. En fait, il n'y a qu'une façon de gérer les choses, que ce soit au Rwanda ou ailleurs. C'est d'éveiller la conscience des gens à la dimension de l'humain. Parfois, je me dis, on est en train de mettre la charrue avant les bœufs. Construire les routes, de belles maisons, tout ce que vous voulez, mais le cœur du Rwandais n'est pas reconstruit. Et si un cœur est en train de saigner, ce cœur-là ne fera pas la paix. Si tu n'as pas de solution à l'extérieur, il y en a une à l'intérieur. Et si tu réussis la solution intérieure, l'extérieur va changer aussi. En fait, en Kinyarwanda, nous disons que tu peux fuir ce qui te court après, mais tu ne peux pas fuir ce qui te court dedans. Parce que, en fuyant, tu cours avec. Va à l'intérieur. Et une fois que tu auras changé là-dedans, tu vas voir l'extérieur va changer aussi. Parce que l'extérieur n'est que la manifestation de ce que tu portes. Et c'est ça, c'est cette difficulté-là. C'est une difficulté de l'humanité dans son état actuel. Et l'état actuel de l'humanité, je vais te dire, c'est elle est mise en coupe réglée par le désir du profit. Hein? C'est ça. En fait, le capitalisme joue sur ça. La mondialisation joue sur ça. Et ça vous déstructure l'humain très, très vite. Et les humains sont déstructurés. Et quand tu leur parles de se restructurer, ils te regardent comme s'ils étaient aveugles. Ils disent, mais de quoi parle-t-il? Ils sont sourds à son langage. Ce n'est pas le langage de la publicité. Ce n'est pas le langage des médias. Donc, ce n'est pas le langage de la culture ambiante. Et là, c'est difficile, en fait, pour tout le monde. Et pourtant, c'est ça la solution. C'est sur l'axe de l'évolution de la conscience qu'il faut maintenant revenir. Et c'est ça que j'appelle l'axe vertical. C'est l'axe des niveaux de conscience et c'est l'axe de ton corps, de ton cœur, de ton intelligence et de ton esprit. Reprends-toi et demande-toi, finalement, la vie, c'est quoi? Est-ce que tu as encore le temps d'aimer et d'être aimé? Est-ce que tu as le temps de la rencontre? Non, tu es occupé, écartelé par les aiguilles d'une montre. Et l'intelligence, est-ce que tu as le temps d'apprendre à penser par toi-même? Une pensée pensante ou tu es là à avaler les pensées d'autrui? Et même pas les pensées, la publicité. C'est ça. Tu es obnubilé par la télévision. Tu ne sais même plus lire un livre. Tu vois? Et maintenant, l'esprit, non, l'esprit, ça n'existait pas. On a tout simplement coupé. Non, maintenant, on sait. Il n'y a que la matière, hein, et le profit. Hein? Mange, bois, et puis demain, tu seras mort, imbécile. C'est ça. L'histoire est assez compliquée. Il y a l'histoire reconnue. C'est celle-là que le plus fort tourne à son avantage. Mais il y a l'histoire connue. Elle est plus vaste que l'histoire reconnue. Il y a l'histoire racontée. Elle est encore plus vaste que l'histoire connue. Et il y a l'histoire vécue qui est encore plus vaste que l'histoire racontée. Vous voyez? Donc, quelle est l'histoire que le Rwanda va noter dans ses livres pour ses rejetons. Alors, si on veut réellement se rapprocher de l'histoire vécue, il faut donner la parole aux gens. Ça s'appelle l'intelligence narrative. C'est une des quatre intelligences citoyennes. Que les gens puissent dire ce qu'ils ont vécu. Parce que ce qui sera oublié va revenir nous hanter. Pour moi, c'est comme ça qu'il faudrait faire l'histoire du Rwanda. Comme l'histoire de partout ailleurs, d'ailleurs. Mais c'est pas ça qu'on fait, malheureusement. C'est pas ça qu'on fait. Parce que pour raconter, il faudrait encore pouvoir ouvrir des espaces protégés. Où celui qui parle n'est pas jugé, mais entendu, sans jugement. Qui peuvent produire la vérité. Voilà. Sans ça, on va toujours revenir à la même chose. C'est-à-dire qu'on n'apprendra rien de l'histoire. Comme il est clair maintenant, dans toute l'humanité, l'homme n'apprend rien de son histoire. Pas grand-chose.
Si vous deviez vous adresser aux gens, qu'est-ce que vous leur diriez?
Alors, j'aimerais leur dire, d'abord les saluer, avec un salut hindou que j'aime beaucoup, Namasté. Namasté, ça veut dire, le Dieu en moi s'incline devant le Dieu en toi. Alors, d'abord, Namasté, chers auditeurs. Et puis, j'aimerais que vous vous rappeliez qui vous êtes vraiment. Je me suis donné comme mission de vivre le plus délibérément possible, c'est-à-dire de vivre en liberté, de ne me laisser enchaîner ni par l'extérieur ni par l'intérieur. Et je me suis donné comme mission aussi de rendre les gens à eux-mêmes, c'est-à-dire de les aider à vivre délibérément, parce que j'estime qu'il est normal et sain d'accorder aux autres ce que je m'accorde. Et comme je m'accorde de me considérer comme un être divin et qui peut le manifester réellement dans l'histoire, je vous considère tous comme des êtres divins. Et j'aimerais que vous manifestiez dans l'histoire votre divinité. Comment cela? Eh bien, respectez vos corps et les corps des autres. Respectez vos cœurs et les cœurs des autres. Respectez vos intelligences et les intelligences des autres. Respectez vos esprits et les esprits des autres. Si vous commencez par ce respect-là, vous construirez immanquablement une société en équilibre.
C'était Laurien Ntezimana. Vivre à l'endroit. Si c'est là, c'est ici. Une série d'émissions proposées et produites par RCN Justice et Démocratie. Réalisée par Pascaline Adamantidis, avec les appuis de Philippe Auzet et Patrice Hardy. Mixée par Olivier Ruten. Sur une musique de Daniel Stockard. Mixé par Olivier Ruten. Cette émission a été réalisée avec le soutien du Service public fédéral du ministère des Affaires étrangères, du commerce extérieur et de la coopération au développement en Belgique.